Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Yannick Hennel. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons une suite de Bach par l'ensemble et Moffati. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à Alula, en Arabie Saoudite, pour nous faire découvrir le théâtre Maraya, plus grand bâtiment en miroir du monde. Le tout est réalisé par Margot Page avec Jean-Guy Lamège à la prise de son. Bonsoir Yannick Hennel.
Bonsoir.
Alors toujours beaucoup d'actualités qui vous concernent. Publication relativement récente de Bleu Bacon dans la collection Ma Nuit au Musée chez Stock. Le premier numéro de la revue Aventure chez Gallimard. Votre participation au Festival des Grands Récits à Auxerre qui s'est déroulé 3, 4 et 5 mai. Des actualités qui me donnent cette opportunité, ce qui me réjouit de vous recevoir pour essayer d'en savoir plus sur vous, essayer de savoir ce qui vous a conduit vers l'écriture, la façon dont vous pratiquez votre art. Alors si être fils de militaire vous a amené à voyager au gré de ses affectations, habitant un temps au Niger, votre adolescence, elle va se passer dans l'endroit, pourrait-on dire, séminal de votre écriture, dans le pensionnat du Prytanée militaire de la Flèche, l'un des 6 lycées de la défense française. La Flèche, c'est dans la Sarthe. Un isolement qui va vous conduire, Yannick Hennel, à devenir un lecteur compulsif, on va y revenir. Mais c'est surtout le lieu où, pendant 3 ans, vous avez vécu sous le régime d'une langue particulière, celle qui donne des ordres, celle qui réglemente, celle qui punit. Alors de cette expérience naîtra le premier texte publié en 96, Les petits soldats. Mais découvrir la lecture dans cet environnement, dans ces conditions, en faire, j'imagine, son refuge, ça semble rétrospectivement vital. Alors qui de mieux pour s'échapper que Rimbaud, que Lautréamont, qu'Herman Melville? Quels souvenirs vous avez des sensations, des émotions, des sentiments que vous procurez ces lectures adolescentes dans cet environnement militaire?
Je crois que ce sont des sensations incompréhensibles. Je suis assez pour l'incompréhensible encore aujourd'hui. Je dirais que c'est l'insaisissable qui me travaille, enfin qui m'anime, l'insaisissable qui est lié au désir. Et c'est vrai que ça a été un bouleversement, enfin. Je vivais dans un monde ordonné, dans un monde tellement ordonné qu'il en devenait pervers, au fond, celui du commandement, enfin. Et la déflagration, effectivement, vers 15 ans, je sais plus, 14 ans et demi, 15 ans, peu importe, à la fois de la New Wave que j'écoutais, mais aussi, surtout, effectivement, des auteurs que vous avez cités, enfin, un peu par hasard, hein, c'est Lagarde et Michard, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin,
ah oui, je vois.
Et où il y avait quand même Baudelaire, Rimbaud, Verlaine aussi. Mais Verlaine est m'excitait moins, disons. Mais le soulèvement d'un coup, la permission d'un soulèvement, voilà. La liberté qui me semblait tellement impossible et à laquelle je n'avais même pas songé, enfin, qui était dite, qui était proposée de manière gratuite. Et puis l'embarquement que ça induit, enfin, l'offre illimitée. L'offre illimitée de littérature. Alors, ça passait par le langage, mais ça venait contredire très exactement ce qui se passait dans ma vie, enfin, d'enfant très sage, enfin, qui ne se serait même pas permis de penser qu'une autre vie était possible. Donc, je viens comme ça, très classiquement, d'une fulguration classique, enfin, c'est-à-dire la révélation par le texte.
Alors, que le Prytanée militaire de la Flèche a décidé de votre vocation d'écrivain, Yannick Hennel, est-ce que c'est aller trop vite en besogne ou est-ce que vous en avez la conviction?
Alors, c'est lui faire grand honneur à ce Prytanée.
Il y avait quand même
des cartes là-bas, mais donc c'était du temps des jésuites avant. Mais disons que c'est dans la confrontation. Alors, grâce à ce Prytanée, oui. Grâce à une expérience de claustration, oui, ça c'est certain. Et de communauté aussi, parce que se retrouver de manière presque anachronique dans les années 80. Moi, j'écoutais les Ramones le soir en écoutant Bernard Lenoir, enfin, au casque le soir dans mon lit. Et j'étais en treillis, quoi. C'était quand même très étrange. Mais finalement, sur le coup, je l'ignorais, mais bien après, j'ai compris que tout ça était très fou, enfin. Et donc, oui, une vocation, oui, au sens d'un appel. Au sens où quelque chose venait sourdre de ces textes-là, me dire, il y avait Edgar Allan Poe, il y en avait plein, hein, d'un coup, ça a déferlé. Quelque chose venait me dire, mais, si tu veux, on est là. Viens donc avec nous. Une histoire parallèle, voilà, qui trame le temps. Je pense qu'à chaque instant, il y a quelque chose d'autre qui nous tend la main. Et la liberté, c'est ça. La liberté ne se remet jamais au lendemain. On le sait tous. Mais sauf qu'à 15 ans, on peut le vivre vraiment intensément.
Alors, vivre intensément, c'est aussi, ça passe aussi, vous l'avez déjà mentionné par deux fois, par la musique. Vous allez nous l'expliquer au travers du choix musical que vous avez fait pour cette émission, choix qui s'est porté sur le morceau de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Pour les non-anglophones, ça veut quand même dire l'amour va nous déchirer, ce qui n'est pas rien. Quelle place a ce morceau dans votre formation sensible, Yannick Hennel?
Ah, c'est un morceau que je ne cesse d'écouter. J'essaie de faire le calcul rapidement. Ça fait 40 ans que je l'écoute.
Ouais.
Bon, c'est un morceau qui m'a illuminé immédiatement et je ne comprenais pas tout des paroles, mais je sentais bien que c'était à la fois froid et chaud et que la passion avait à voir avec ce double régime absolument froid. Et d'une ardeur qui emportait tout. Et la voix d'Ian Curtis, enfin, très vite, je me suis intéressé à ça. J'ai lu des revues, enfin, j'allais acheter frénétiquement le mercredi quand nous étions libres et libérés. J'allais acheter Best et Rock and Folk. Et là, je dois dire que la prose de plein de rock critiques m'a formé. Les rock critiques sont des gens très littéraires, enfin. Et voilà, j'ai tout su, enfin, j'ai tout voulu savoir sur Ian Curtis, sur Joy Division, sur les Cramps, sur les Dogs, sur le Gun Club, sur le Velvet Underground. Tout ça avait autant d'importance que Rimbaud, voilà. Comment est-ce qu'on se nourrit? Comment est-ce qu'on a soif? C'est ça la grande chose, je crois.
On écoute Joy Division. We'll be right back.
there's a taste in my mouth. This desperation takes hold. Yeah, there's something so good, just can't push it no more. But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart.
Un peu les plaisirs, hein. C'était les Peel Sessions.
Les John Peel Sessions, ouais.
Plus
punk,
ah ouais.
Version,
ouais. Ouais, plus brut.
Plus brut.
Ouais, qui ressemblait plus à une version de concert que celle de l'album de Joy Division. Mais alors, quelques archives ce soir vont nous permettre de couvrir quelques champs de vos activités, Yannick Hennel, entrevoir comme ça quelques lignes de force de ce que vous cherchez ou recherchez. Il me faut préciser qu'après le pensionnat, vous vous installez à Paris. Vous suivez des études de lettres, que vous réussissez l'agrégation, que vous devenez à 23 ans professeur de lettres. C'est un métier et un salaire qui permet aussi de donner libre cours aux passions, notamment la lecture et notamment et les revues. On en reparlera, telles quelles. Et puis l'IS de Guy Debord, à la BPI, très important, Beaubourg, on en reparlera aussi. Et puis un beau jour, vous allez nous raconter ça dans un instant, vous osez aller frapper à la porte d'une de vos idoles, l'écrivain Louis-René Desforêts, rue des Quatre Vents. On va écouter une archive un peu longue, mais de Louis-René Desforêts, parce que c'était dans la Nuit Magnétique en 83, parce que long, parce qu'il n'était pas bavard, surtout dans les médias, contrairement au titre d'un de ses livres. On écoute Louis-René Desforêts.
J'ai lu Rimbaud et Joyce, et Rimbaud plus tôt encore, si vous voulez, et je l'ai découvert de façon assez curieuse en découvrant un numéro de Conférencia. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'était Conférencia. C'était une revue d'avant-guerre, une revue qui reproduisait des conférences tenues à la salle Gaveau par généralement, d'ailleurs, plutôt des académiciens. Et il y avait dans un de ces numéros une conférence de Gérard Boer sur Rimbaud, qui était suivi de poèmes de Rimbaud et qui m'ont absolument bouleversé. Et de ce fait, je me suis mis en effet à lire plus à fond Rimbaud. Quant à Joyce, alors je l'ai lu dans les circonstances un peu. Enfin, non, je ne sais plus comment dire. Je l'ai lu, je crois, pour avoir eu connaissance d'un article paru dans l'ANRF, article d'un Américain, à l'époque où Joyce était vraiment très peu connu. Et j'avais fait des économies pour m'acheter Ulysse, lequel était un livre à l'époque très cher, ça coûtait 90 francs, évidemment. Aujourd'hui, ça ne paraît rien, mais à l'époque, c'était énorme. Et ayant donc fait des économies, j'ai été acheter ce livre rue de l'Odéon, dans cette librairie où j'allais souvent, tenue par Adrienne Monnier. J'ai demandé ce livre et là, il y avait un monsieur assez grand qui a été chercher le livre, qui l'a enveloppé très soigneusement dans du papier cristal, qui me l'a remis. Je suis sorti de la librairie et très vite après, j'ai voulu lire le livre et je dois dire que j'étais extraordinairement décontenancé à la première lecture. C'est un livre que j'ai relu beaucoup par la suite, mais la première lecture a été, je ne dirais pas une déception, mais une sorte d'abasourdissement ou quelque chose comme ça. Et alors, 15 jours après, je suis retourné chez Adrienne Monnier, laquelle m'a dit, vous savez qui vous a donné ce livre et l'a enveloppé dans du papier cristal, c'était Joyce lui-même. Alors j'ai gardé ce livre très longtemps avec ce papier cristal qui malheureusement a fini par se déchirer. Et puis je l'ai fait relier par la suite, une belle reliure, comme une bible un peu, si vous voulez.
Ça c'était Louis-René Desforest, sa rencontre avec l'écriture d'abord de Rimbaud et celle de Joyce. Mais comment s'est passée la rencontre du jeune Yannick Enel avec le vénérable Louis-René Desforest?
C'était mon Joyce en fait, mon Joyce vivant. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une époque où il y avait une chaîne de télé qui était la 7. Et il y avait quelque chose qui s'appelait Les Hommes Livres, je crois. Et il y avait un film de Benoît Jacquot sur un certain Louis-René Desforest, dont je ne connaissais absolument rien. Et donc je l'ai vu, entendu, ça durait 50 minutes. J'étais proprement stupéfait, j'étais en Hippocagne ou en Cagne, je faisais mes études de lettres. Et je n'avais pas trouvé encore un nom propre qui puisse figurer pour moi la littérature à venir, en fait. Je lisais passionnément, je lisais Bataille, Duras, et puis comme Racine, enfin, on lit tout, quoi. Et d'un coup, il y avait cet homme, et la manière dont il parlait du silence, la manière dont apparemment il avait trouvé comment rendre compte de ce silence à travers ses livres, qui étrangement s'appelaient Le Bavard et La Chambre des Enfants. Je sais pas, ça m'a d'un coup passionné. Le lendemain, je me suis procuré ces livres et j'ai été tellement saisi, enfin ça m'a tellement plu, enfin ça correspondait à mes attentes que j'ai osé lui écrire, voilà. Et je sais pas, il a dû être touché par la lettre de ce type qui depuis sa chambre de reine lui disait je suis en train de lire vos livres, ma vie en dépend, enfin. Il m'a dit un jour si vous venez à Paris, venez me voir, ce que j'ai fait, mais je l'ai fait bien des années après, comme vous l'avez dit, quand j'ai été nommé professeur voilà en banlieue parisienne, mais je vivais à Paris. Je suis allé le voir rue des 80 et on s'est vu tous les lundis, je me souviens très bien, tous les lundis vers 17h. Il m'accueillait, on buvait du whisky à l'eau. J'ai jamais osé lui dire que je supportais pas du tout ça, mais bon, heureusement qu'il y avait de l'eau dedans. La chance de, comment dire ça, cette transmission-là, l'amitié dans les œuvres, enfin, moi je n'avais rien écrit, mais j'étais fort de toute l'œuvre que je n'avais pas encore écrite. Et lui le sentait, enfin, le grand-père idéal, disons, enfin, je sais pas. J'imagine que la littérature, ça marche aussi comme ça, enfin. Une espèce de transmission invisible, enfin. Bon, toujours est-il que, plus sérieusement, c'est une œuvre, j'imagine que des gens lisent encore Louis-René Desforest. Pour moi, c'est l'un des plus grands écrivains qui a pu exister en langue française, enfin. Ça va avec Michel Léry, ça va avec des gens comme ça, Pierre Klossowski, et ça m'a... Le niveau d'exigence, je sais que le mot niveau est un peu horrible, mais je le dis comme ça, enfin, l'exigence qu'il y avait dans cette prose, la poétisation du monde, et en même temps quelque chose de très intellectuel, mais qui ne parlait pas d'idées, enfin, qui parlait que de sensations, qui parlait de l'enfance sans cesse, de l'enfance solitaire, ça m'a parlé, ça m'a déchiré, comme on le disait tout à l'heure, de Joy Division. Donc il y avait effectivement d'abord Rimbaud et la New Wave, puis après Desforest, c'était la littérature en personne, enfin, il était vivant, et ses livres très rares, c'était l'époque où quand j'ai eu la chance de le rencontrer, il publiait Ostinato. Dans mon souvenir, d'après ce qu'on disait, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas publié, parce qu'il avait perdu sa fille, qui s'était noyée, et ce deuil l'avait fait taire, enfin. Et bon, c'était une personne exquise, enfin. Je sais pas comment dire ça. J'ai une immense affection pour lui et pour la direction qu'il m'a donnée avec une immense discrétion, enfin. Il a lu mon premier texte, enfin. J'ai une lettre de lui que je garde comme un... C'est mieux que tous les diplômes.
Voilà,
Louis-René Desforest.
Autre figure d'importance, bien sûr, Philippe Solers, on l'entendra un peu plus tard, qui publie votre deuxième roman, Introduction à la mort française, dans la collection de l'Infini, qui est dirigé chez Gallimard. Bon, le timing de la sortie n'est pas des plus heureux, puisque ce livre paraît le 12 septembre 2001.
Oui, je ne suis pas très bon en stratégie.
Bizarrement, les gens sont un peu plus occupés par autre chose que par la sortie de votre livre.
C'est bizarre, d'ailleurs.
Je ne sais pas pourquoi. Mais pour autant, ce livre, il est quand même important, Yannick Enel, parce qu'on va y rencontrer pour la première fois le personnage de Jean Deschelles, qu'on va retrouver dans presque tous vos romans. C'est qui, Jean Deschelles?
Alors, c'est moi en mieux et c'est moi en pire. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre.
C'est bien. Bah, moi, je peux dire que le but de Jean d'Échelle, c'est de jouir de la vie, de repoétiser le monde, d'atteindre une dimension extatique de l'existence. On retrouvera d'ailleurs cette même tentative dans votre livre Cercle, cette mission que s'assigne Jean d'Échelle, hein, c'est le travail d'une vie. Mais ça semble s'avérer possible. On peut, par exemple, regarder une fougère ou un rhinocéros et quelque chose de l'ordre de l'extase peut apparaître. S'il cherche une vie possible, c'est quand même aussi parce que nos vies sont impossibles. Tout nous empêche. Et là, on revient peut-être au Prytanée, mais la vraie vie, si je puis dire, en dehors du Prytanée, est aussi très réglementée.
Oh ben j'ai toujours, c'est un peu ma structure existentielle, disons. Je suis fidèle à cette structure parce que j'arrive pas à en sortir, sans doute. Mais donc du coup, je l'ai établie comme vérité. Mais à savoir que il y a une impasse qui est celle que la société et l'invivable qu'elle nous propose ne cesse de propager. Et puis il y a quelqu'un en moi, enfin c'est pas exactement moi, mais il y a quelqu'un qui cherche une issue. Voilà, donc l'impasse et la tentative de chercher une issue. Et les romans que j'écris, bon, ce sont des projections romanesques de ça, de cette situation-là. Alors c'est vrai que l'extase, c'est une solution. En venant ici, à la maison de la radio, sous la pluie battante, j'avais pas de parapluie évidemment, comme d'habitude, à un moment, je me suis arrêté sous un lierre mouillé. Je sais pas ce qui m'a pris, il y a 20 minutes à peine. J'ai mis mon visage dans ce lierre. Et c'était tellement bon. Mmh. Vous voyez, je suis encore ce jeune homme qui fait des choses comme ça. Et oui, l'extase, l'extase a rien de spectaculaire en fait. L'extase, c'est une chose très très minime. Enfin, c'est comme dans les évangiles quand Jésus, si je puis me permettre, de citer cet homme. Quand Jésus parle du grain de sénévé, du grain de moutarde, où il dit « le royaume, c'est ça, c'est un grain de moutarde ». Bon, moi, c'est mettre mon visage dans du lierre mouillé, j'aime ça. Et à partir de là, des choses se passent, voilà, ou rien.
Alors, dans ce même ordre d'idées, ce type de recherche, on va écouter cette fois une archive courte, où on va entendre parler Georges Bataille.
Tout le monde sait ce qui rend l'homme le plus heureux, ce sont les sensations les plus intenses, Ce qui me paraît le plus intéressant dans le sens du bonheur ou du ravissement se rapproche davantage de ce à quoi l'on songe lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Sainte Thérèse ou Saint Jean de la Croix que de la première chose à laquelle j'ai assez visiblement fait allusion. L'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. Et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire en somme cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses, et qui doit être levé d'une certaine façon.
Alors évidemment, on comprend bien votre intérêt pour Bataille, Yannick Hennen, à l'écoute de cette archive. Alors lui, c'est un compagnon de route pour vous ?
Oui, c'était extraordinaire. On entendait le vent, non?
Ouais, c'est le vent du lierre dans lequel vous avez mis votre visage tout à l'heure.
Voilà, je crois que c'est celui-là. C'est le vent du temps aussi. Et quand il dit l'intensité de la sensation détruit l'ordre, c'est extraordinaire. Enfin, c'est d'une simplicité percutante. Bataille, c'est la personne que j'ai le plus lue au monde, plus que Proust. J'aime d'amour fou, Proust, enfin, mais Bataille, les 12 volumes, je fais partie de ces gens qui ont lu et relu les 12 volumes des œuvres complètes jusqu'aux notices, les notes de bas de page. Il m'a renversé, en fait. Il est renversant. Parce qu'il y a aussi quelque chose chez lui d'intolérable aussi, que j'ai du mal à tolérer aussi, qui est le rapport avec le mal, enfin, la malfaisance. Et une perversion chez Bataille qui est pas mon genre, enfin, mais c'est aussi une sorte de saint athée. Et j'aime que cet homme, alors ça me parle profondément. J'aime que cet homme s'intéresse aussi bien aux parois pariétales de Lascaux qu'aux turpitudes du marquis de Sade, et que ce soit au même niveau, que l'innocence et le plus irrécupérable des conduites sexuelles puisse finalement entrer dans le même cerveau et être entendu et compris avec une espèce de tendresse illuminée. Je crois que la littérature a à voir avec ça. Et je pense que toutes les époques, j'allais dire notre époque très morale, mais toutes les époques sont fondées sur une morale excessive, hein, enfin sur la moraline, comme disait Nietzsche. Et quand même, la littérature est du côté, pas du tout, elle n'est pas contre la morale, elle n'est pas immorale, mais elle est du côté d'une infinie liberté sur ces questions. Je crois que Bataille, c'est ça quand même.
Alors justement, je reviens à Jean Deschelle et à un autre livre, Tiens ferme ta couronne, qui vous a d'ailleurs, phrase empruntée à Proust,
oui.
Livre qui vous a valu le prix Médicis, Yannick Haenel. Jean, il essaye donc de convaincre Michael Cimino de s'intéresser à un scénario qu'il a écrit sur Herman Melville, comme ça il y a beaucoup de vos passions qui sont là, mais il y a cette phrase de Lacan, il ne faut pas céder sur son désir, c'est ça toujours.
Mais dans mon souvenir, dans un de ses séminaires, il dit même que c'est la définition du héros. Moi, les héros en général, ceux qui font des exploits, je m'en fous complètement. Mais cet héroïsme-là, très, très concret, ne pas céder sur son désir, l'éthique elle-même, c'est pas la morale, c'est l'éthique. C'est la chose la plus difficile et c'est la plus exaltante au monde. Si on a bien quelque chose à défendre, c'est bien notre désir, enfin. Sinon, il n'existe pas et alors c'est foutu. Oui, il y a ça, parce que ça innerve les phrases, enfin, se mêler d'écrire des romans aujourd'hui, persister, enfin, aimer ça follement, je crois que ça a à voir avec ça, avec le fait de ne pas céder sur son désir. Non pas qu'on sache très bien ce qu'on veut, enfin, non pas que je sache exactement comme une vérité, a priori, ce que je veux et ce que je sais, je crois que je veux rien, mais c'est juste que l'intensité de la sensation, comme disait tout à l'heure Bataille, dans cet extrait merveilleux. Je pense, je sens comme ça, confusément, que c'est ça qui doit primer, contre tout. L'irréductible. Quand je lis aussi Marguerite Duras, que j'aime de plus en plus, ou Monique Wittig, enfin, ces écrivaines extraordinaires, je sens bien qu'elles ont quelque chose qui relève de l'irréductible. Il n'y a même pas à le défendre, c'est là. Et c'est ça qui est plus beau. C'est comme dans l'amour, enfin. Il y a quelque chose qu'ils n'auront pas et que nous avons quand nous nous aimons, voilà. Et la littérature a à voir avec ça, c'est sûr.
Alors pour essayer de continuer à faire un peu le portrait de votre portrait, Yannick Haenel, dire que donc vous avez vécu et encore tout à l'heure des moments d'extase, mais il y en a eu d'autres que vous avez notamment décrit dans un texte, À mon seul désir. Avec cette fréquentation assidue de la tapisserie de la Dame à la Licorne, ou autrement aussi avec votre quête un peu quasi obsessionnelle des toiles du Caravage, dont vous aviez vu à l'adolescence un portrait de Judith, sauf que c'était un détail,
oui.
C'est le cas de le dire, parce qu'on ne voyait pas ce que faisait Judith, qui quand même, quand vous découvrez le tableau, vous voyez qu'elle était en train de décapiter Holoferne, ce qui est quand même une situation un peu particulière.
Oui, je crois.
On va parler d'une des dernières expériences en date dans ce domaine, concernant Francis Bacon, mais en quoi est-ce important pour vous, Yannick Haenel, de mettre des mots sur les œuvres d'art plastique?
Alors ça, c'est une question absolument passionnante. C'est une des choses qui me mène, qui m'ouvre, enfin. D'une part, effectivement, comme vous le dites très bien, je pense qu'il y a mobiliser en soi des nuances. Mobiliser des nuances pour dire l'insaisissable. Parce que la peinture est muette, enfin, on le sait bien, c'est une parole. Je crois que la peinture, c'est pas de l'image, mais c'est une parole, mais qui se tait merveilleusement, enfin, en nous dévisageant. Et je sais pas pourquoi, mais je me sens épris face à des peintures que j'aime depuis longtemps, enfin, et de plus en plus. Je me sens épris d'un désir de trouver la justesse. Enfin, évidemment, c'est un peu insensé et impossible, mais j'ai beaucoup passé de temps, souvent de manière immersive d'ailleurs, parce que je pense que justement, encore une fois, l'intensité face à des œuvres d'art implique qu'on puisse être excessif, enfin, parce qu'après tout, dans les musées, on regarde quelques minutes les œuvres qu'on aime. Passer une nuit entière, ou passer, comme je l'ai fait pour la Dame à la Licorne au musée de Cluny, venir tous les jours pendant 6 mois noter. Et le Caravage, c'était bon, des voyages entiers, enfin, en Italie. Enfin, y a ça. Et puis il y a aussi, comment dire, il y a quelque chose, bon, qui relève d'une quête. Enfin, je pense que dans la peinture, quelque chose se donne, me semble-t-il, mais dans la peinture même très contemporaine, quelque chose se donne de l'irreprésentable, de l'invisible. Et on est entre vie et mort, enfin, on est requis par quelque chose que je cherche en littérature, enfin, avec espérance, mais qui me saute au visage, enfin, qui me comble, voilà. Cette soif que j'ai, que j'espère inextinguible, elle est quand même étanchée par ces oasis provisoires et éternelles en même temps que sont les peintures. Il y a vraiment pour moi une multiplication de la peinture, enfin ça n'arrête jamais. Et alors je me pose pas la question du pourquoi, mais je suis requis par ça, oui. Et j'ai aussi, je suis pas un vrai romancier au sens où j'admire des romanciers passionnément contemporains, enfin qui ne font que ça. Moi, je m'intéresse à tellement de choses différentes que je m'y perds moi-même dans ce labyrinthe et je n'arrive pas à garder cette intensité du désir d'écrire des romans. Parfois, ça me semble vain. Et donc, j'écris sur la peinture, j'écris sur toutes sortes de choses, enfin sur la politique aussi, mais.
Procès de Charlie Hebdo.
Procès de Charlie Hebdo, voilà, parce que j'ai une amitié fondamentale avec les gens de Charlie depuis les attentats de 2015. Et j'écris chaque semaine une chronique pour eux, une chronique culturelle. Puis j'ai suivi le procès. Ça a été fou.
Tous les jours.
D'écrire toutes les nuits, d'improviser une chronique judiciaire. Mais voilà, cette dispersion pour moi relève d'une forme d'accueil. Accueillir le plus possible tout ce qui vient. Voilà, j'aimerais au fond ne pas dormir. Enfin, j'aimerais écrire tout le temps. C'est une forme d'amour, évidemment, qui est peut-être un peu saugrenue et illimitée et folle. Mais voilà, je suis pas un romancier seulement.
Ouais, c'est une dispersion, concentration, parce que c'est l'écrit qui émane de vous. Bleu Bacon, c'est le titre de ce livre dans la collection Manu au musée, hein, dirigée par Alina Gurdiel. Vous avez donc passé, Yannick Hennel, une nuit, quelle chance, au sein de l'exposition Bacon. C'était au Centre Pompidou en 2019. Là encore, avant de parler de cette expérience, on va écouter le peintre. C'était en 75 au micro de Michel Couturier.
Écoutez, je déteste commencer à peindre, mais après quelques temps, quand ça commence à marcher pour moi, c'est bien sûr, c'est un grand plaisir, mais ça n'arrive pas souvent.
Oui, mais vous êtes conscient lorsque vous peignez de l'action physique que les couleurs ont sur votre système nerveux et auront sur le système nerveux du public. C'est-à-dire que vous combattez avec des armes qui sont frappantes, je veux dire, des armes qui ont un effet physique, pas uniquement, j'allais dire, logique ou rationnel.
Non, mais on peut, à ce moment, quand il n'y a pas de tradition, vous savez, on peut simplement, on travaille simplement pour soi-même. Et on espère pour se donner plaisir à soi-même et c'est tout. Et c'est, si quelqu'un aime, et moi j'ai de la chance de gagner ma vie par quelque chose qui vraiment m'intéresse, c'est faire. Et voilà, c'est tout. C'est l'action de peindre et aussi de faire des objets qui m'intéressent. Des images. Oui. De refaire des images qui m'intéressent.
Ah, des images et des objets. Des objets qui vont avoir un destin, qui vont passer dans l'imagination des gens, des autres.
Je ne pense pas que ça va passer dans l'imagination des autres. Je pense que si ça passe dans mon imagination, si ça déclenche des choses pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Je peux pas, c'est impossible à ce moment de travailler pour les autres. Et on a vraiment de la chance que les autres sont même intéressés dans ce qu'on fait.
Ben, y a beaucoup d'autres qui sont intéressés par ce qu'a fait Francis Bacon, à commencer par vous, Yannick Hennel. On est nombreux dans ce cas-là, mais écrire ce texte suite à cette nuit dans le musée, ça a provoqué quoi ou ça il a fallu chercher où pour que ce texte advienne?
Alors, ça a été un défi considérable parce que malgré la modestie dont il fait part là ici, c'est quand même une œuvre considérable et dont la puissance des fractions est illimitée. Enfin, on entend bien comme il est exquis. Enfin, il n'y a pas de violence en lui et pourtant son œuvre est l'une des plus violentes et nous procure une ouverture à la violence, mais à cette violence qui déchire en nous les certitudes. Enfin, et nous ouvre l'abîme. Enfin, le néant. Ça a été tellement compliqué. C'est surtout cette nuit qui a été compliquée, cette nuit-là. Bon, j'ai eu cette faveur, cette chance de passer 10 heures tout seul dans un musée, la nuit.
Aimez beaucoup.
J'adore Beaubourg. Enfin, moi, j'ai passé à la bibliothèque aussi. J'ai toujours, quand j'étais étudiant, j'allais travailler là. Parce que les livres sont là, on peut les toucher, les lire, les consulter. Et puis, c'est ouvert le soir. Enfin, bon, c'est parfait. C'est le lieu idyllique. Et cette nuit a été dramatique. Enfin, c'était merveilleusement dramatique, comme le sont les tableaux de Bacon, parce que je me suis mis dans des états pas possibles. Enfin, involontairement. Enfin, j'ai été privé de vue pendant 2 heures. J'ai eu une migraine ophtalmique. C'était une véritable aventure. Enfin, comme si Bacon me punissait. Faut pas pousser, mais comme s'il me disait. Ah, mais tu crois vraiment que tu vas me voir comme ça? Les 2 premières heures, je n'ai rien vu. Il y avait des miroitements qui me tranchaient les yeux. Enfin, j'ai dû prendre tout de suite mon tramadol chéri et pour arriver à affronter les tableaux. Et après, ça a été initiatique, mais je pense que les grandes choses sont toujours initiatiques. On ne fait que s'initier au fait même de vivre. Et s'initier à une perception excessive comme ça, comme celle de Bacon, je dis pas qu'il faut mériter, comme on le dit parfois bêtement, une œuvre, mais c'est juste s'ouvrir, se rendre disponible à ça, aussi aux atrocités qui sont peintes. Et à la volupté aussi. Il y a une phrase de Bacon que j'ai mise en exergue du livre, c'est la volupté, c'est ce que nous voulons. Et alors, essayer de rendre, de restituer à travers un corps qui était le mien, ce qui se passe entre une œuvre et les impacts qu'elle provoque, ça c'était mon objet. Enfin, je ne suis pas historien d'art, enfin, et donc j'essaye de raconter l'aventure d'aimer, en fait. L'aventure d'aimer quelqu'un, l'aventure aussi d'aimer une œuvre. Et ce sont les impacts, enfin, qui me semblent les plus. Qui me semblent. Le cœur même de ce qui peut nous mener. Enfin, qu'est-ce que ça nous fait, voilà, Bacon. Et oui, ça a été très difficile, mais c'est la moindre des choses. Enfin, si ça avait été facile, ça aurait été nul comme livre que j'aurais écrit. Donc,
c'était pas le cas.
C'est gentil, mais franchir cette difficulté-là, il en parle, hein, il vient d'en parler. C'est quand même, c'est de ça dont il s'agit. Enfin, trouver comment dire ces choses impossibles à dire.
Allez, on évoque dans le temps qui nous reste, le temps file, une nouvelle aventure, c'est le cas de le dire, avec cette revue qui porte ce nom, Aventure. Vous aviez fondé en 97 la revue Ligne de risque avec François Méronis et Frédéric Badret, 27 numéros jusqu'en 2013, et puis il y en a eu quelques-uns depuis 2015, à un autre rythme. Il y a eu ce livre Poker qui était né des entretiens de la revue avec Philippe Solers. En l'ouverture de l'éditorial du premier numéro d'Aventure qui vient de paraître, donc cette première phrase que vous écrivez, « Où est-on encore en vie ?» Point d'interrogation. Ça, c'est la question de Jean Deschelles, c'est la question de Yannick Hennel. Cette même obsession venue du Prytanée, il s'agit de remettre en liberté le langage avec les titres des forces que la littérature, c'est de la pensée. Le combat reste sisyphéen.
Le combat continue, comme diraient les militants. Il y a une phrase de Rimbaud très belle où il dit « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. » C'est à la fin d'une saison d'enfer. Moi, c'est le combat spirituel qui me... Enfin, le combat, c'est beaucoup dire. Ça a l'air d'être un peu guerrier, comme ça. Je retire alors le mot. Non, c'est une...
C'est moi qui l'ai prononcé.
Bon, écoutez. Une exigence, disons. Un désir d'effervescence. Oui, je pense que la littérature est la chose qui chez moi a pris la place du partage, voilà. Et c'est vrai que fonder une revue, ça a l'air bizarre à l'ère des réseaux sociaux, enfin faire cette chose qui a l'air peut-être un peu a priori 19e-iste, mais pour moi toutes les avant-gardes ont eu lieu, des surréalistes jusqu'à Guy Debord ou en passant par Tel Quel. Ça a toujours pris cette forme hybride, cette forme expérimentale, où publier des textes quand on est un jeune homme, moi ça a eu lieu à un moment de ma vie, c'est une première, c'est le feu enfin, c'est le baptême du feu, avant de se lancer dans des opérations un peu périlleuses de romans, de récits. Et puis surtout, c'est la communauté. Moi, j'aime... Je vais le dire très bêtement, mais j'aime les autres, enfin. Je n'aime pas que moi.
On l'a bien entendu.
J'aime passionnément plein d'œuvres, et surtout plein d'œuvres qui s'écrivent aujourd'hui. Et voilà, refonder une revue de littérature qui croit avec une foi dans la littérature aujourd'hui, chez Gallimard en plus, quelle chance. Je pense que c'est ça. C'est presque une politique de la langue. Voilà. Mettre le désir de langage avant tout, avant même ce qu'on raconte, avant même le sujet. Donc du coup, dans ce premier numéro, effectivement, il y a beaucoup de poésie, parce que j'ai pu voir ces cinq dernières années que des jeunes gens, beaucoup plus jeunes que moi, et beaucoup de jeunes femmes dont je lis des textes dans des petits fanzines, dans des petites revues, écrivent de la poésie qui est du roman en vers, c'est même pas des vers. J'ai été tout à fait ébloui, par exemple, en lisant Laura Vasquez. Et bon, Laura Vasquez a besoin de personne, surtout pas de moi. Je crois qu'on a tous compris que c'était génial. Mais
c'est bien de le redire.
Mais c'est bien de le redire, voilà. Et puis, elle est pas toute seule, il y en a d'autres, ouais. Voilà. Et donc, je suis heureux de coaliser des choses comme ça, voilà.
Noble mission. Alors, il me reste à rappeler que la publication la plus récente, c'est Bleu Bacon, dans la collection Ma nuit au musée chez Stock. Le premier numéro de la revue Aventure chez Gallimard est maintenant disponible, avec aussi cette question que vous avez posée à 65 écrivains et écrivaines. Écrivez-vous des scènes de sexe ? 65 réponses, oui. Certaines surprenantes, et puis bon, ces textes, parmi lesquels celui de Laura Vasquez, et puis dire que vous serez donc en cette fin de semaine à Auxerre pour participer au festival Les Grands Récits. Alors, d'une part, vous livrerez et vous lirez et parlerez d'une sélection de textes en lien avec la nature et plus précisément avec la forêt, qui est le thème de cette première édition de ce festival. Ce sera samedi à 14h à l'abbaye Saint-Germain, un peu plus tard, toujours samedi et au même endroit à 18h. C'est avec la photographe Linda Tulou que vous proposerez une lecture, spectacle à partir d'un film et d'une photo de l'artiste sur laquelle vous avez écrit un texte, La nuit souterraine. Il y avait une première version à la Maison de la Poésie. Il y a un match retour, la suite, c'est à Auxerre en cette fin de semaine. Le temps a passé vite, il y a beaucoup à dire. Merci d'avoir été notre invité, Yannick Enel.
Merci à vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Pour les 20 ans du label de musique classique Ramé, l'ensemble Moffati voit Bach en triple. L'orchestre de chambre belge, spécialisé dans la musique baroque, invite trois solistes pour revisiter ensemble trois œuvres du compositeur allemand dans un enregistrement intitulé Bach triple. Sophie Gent au violon, Frank Tönz au traverso, Bertrand Cuillère au clavecin forment une trinité idéale pour relire le triple concerto, le cinquième concerto brandebourgeois et la suite en si mineur pour traverso et cordes. Cette dernière fut composée vers 1739 alors que Bach occupait la fonction de cantor de l'église Saint-Thomas, ce qui lui valut le surnom de cantor de Leipzig. Passé à la postérité grâce à la badinerie, sorte de tube frivole et dansant, cette suite, en sept mouvements, propose, après ouverture, une succession de rythmes de danse. De la bourrée au menuet, c'est tout un héritage baroque qui revit dans cet enregistrement. En voici le troisième mouvement, la sarabande. C'était le troisième mouvement de la suite orchestrale numéro 2 en si mineur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Frank Tuns et les Mufati.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis dans le désert saoudien à Alula, terrain de recherche incroyable pour les archéologues qui découvrent ici des traces, pour certaines très préservées, des civilisations nabatéennes. Et c'est la France qui chapeaute depuis 2018, en coopération avec la Commission royale d'Alula, les recherches historiques, mais aussi la mise en valeur de ce patrimoine majeur pour l'humanité. Dans un paysage qui dépasse toute imagination, ces trésors historiques cohabitent désormais avec une présence de plus en plus intense de l'art contemporain. Parmi les nombreux projets fous créés ici à Alula, un centre culturel, certainement le plus instagrammable du monde.
Nicolas Lefebvre, je suis le directeur tourisme et hospitalité de l'Agence française pour le développement d'Alula.
Merci de nous accueillir ici à Alula. On est en plein milieu du désert et chose très étonnante, c'est que au milieu de ce paysage majestueux et vraiment désert au sens premier du terme, eh bien, il y a un immense espace culturel, un centre culturel, un théâtre complètement recouvert de miroirs. C'est très impressionnant et très beau à voir. Est-ce que vous pourriez nous dire l'histoire de ce lieu ?
Oui, je peux vous raconter rapidement. En fait, tout ça est parti du fait qu'au tout début du projet Alula, le choix a été fait par les dirigeants de la Commission royale pour Alula de commencer par un festival. À l'époque, Alula n'existait pas quasiment en tant que destination touristique.
On parle de quelle année, là, à peu près ?
On est en 2018, donc il y a à peu près rien, enfin, il n'y a même rien. Le projet vient juste de commencer. Et l'idée des dirigeants d'époque, c'est de dire, pour commencer à faire connaître ce lieu et cette destination, on va faire un festival. On peut créer quelque chose d'éphémère, de ponctuel, qui va permettre de parler de la destination sans qu'elle existe vraiment. Et donc, qui dit ça, dit évidemment construction d'un lieu de spectacle. Et donc, la décision a été prise de construire ce théâtre. Et donc, la Commission royale a commandé ce bâtiment éphémère à un cabinet d'architectes italien qui s'appelle Gio Forma de Milan et qui a eu cette idée incroyable en fait de faire un miroir. Sur l'idée très simple, j'ai entendu l'architecte en parler en disant en fait on n'imaginait pas construire quelque chose à cet endroit-là, c'était inimaginable.
Parce que le site est très très beau.
Le site est magnifique, vous l'avez vu, hein, c'est des montagnes, c'est des falaises, c'est du sable, il n'y a rien, c'est un vrai désert au sens propre du terme. Et donc, son idée, c'est de dire on ne peut rien construire. Donc, la seule chose qu'on peut imaginer, c'est un miroir qui reflète le paysage. Voilà. Et donc, il a construit ce bâtiment qui est donc effectivement qui a la forme d'un qui est un rectangle,
un gros cube
en forme de rectangle qui est recouvert de miroirs et donc qui reflète effectivement le paysage alentour, le ciel, les falaises, les montagnes, le sable, les dunes de sable.
Ce qui fait que parfois même il disparaît. Selon l'angle dans lequel on est, on ne voit pas qu'il y a cet énorme bâtiment devant nous.
C'est ça, c'était l'idée de dire, voilà, si je fais un miroir, il va se marier, se fondre dans le paysage. Et c'est vrai, alors c'est un très bel objet parce qu'on le voit quand même, oui. On peut pas dire qu'on le voit pas, mais on le discerne, et c'est un espèce d'objet très, très étrange. Et donc c'était un bâtiment éphémère donc pour le festival, et il a tellement convaincu tout le monde que la décision a été prise, 2 ans après, de le transformer en bâtiment permanent.
Vous pourriez nous en faire la visite ?
Oui, avec plaisir, c'est un endroit exceptionnel, mais c'est aussi un magnifique bâtiment, comme vous pouvez le voir, qui est un équipement multifonctionnel, puisqu'on peut bien sûr y accueillir, c'est sa fonction principale, des concerts, des spectacles, des conférences, mais aussi des expositions, comme c'est le cas en ce moment avec cette exposition d'art contemporain saoudien.
Et dans le spectacle vivant, vous parliez de concerts et de spectacles, quel est le type d'artistes qui ont déjà été accueillis ici ?
Bah, un petit peu tous les genres. On a eu de la musique classique, on a eu Renaud Capuçon pour donner des noms français, mais on a eu aussi la variété américaine, on a eu Alicia Keys, on a eu Lionel Richie, on a eu Bruno Mars, des gens comme ça, mais aussi de la variété du Moyen-Orient. Donc il y a des grands chanteurs libanais, des chanteuses libanaises, des chanteurs égyptiens, des chanteurs saoudiens, qui se sont produits ici aussi, voilà.
Alors ce qui est étonnant, vous mentionnez ces grandes stars internationales, on est ici au milieu du désert, donc peut-être la première question c'est qui vient ?
Ceux qui viennent aujourd'hui, c'est principalement des Saoudiens. Des Saoudiens et plus généralement, je dirais, des gens de la région au sens du Moyen-Orient.
Donc on vient pour voir le concert, par exemple, d'Alicia Keys.
Absolument, absolument. Et je peux vous dire que ça, c'est nouveau. L'élément aussi à avoir en tête, c'est que tout ça, c'est nouveau pour l'Arabie Saoudite. Le fait d'avoir des concerts de musique moderne, de variété, de musique classique, c'est nouveau. Et donc ça, c'est aussi une des forces d'attraction pour les Saoudiens d'Alula. Il y a évidemment toutes ces merveilles d'Alula, point de vue archéologique, historique, paysage, naturel et tout ça. Mais il y a aussi le fait qu'ici, on vient voir des spectacles qui sont quelque chose de nouveau pour l'Arabie Saoudite. Il y avait des collectionneurs saoudiens qui achetaient de l'art, qui avaient de l'art chez eux, mais le fait de montrer de l'art contemporain en Arabie Saoudite, ça fait 3 ans.
Oui, puisqu'en fait, l'espace d'exposition est lui aussi éphémère, c'est-à-dire construit à chaque fois pour l'exposition du moment.
Exactement. Il est dessiné, conçu et construit spécialement pour accueillir une exposition, l'exposition du moment. Il y en a au principe une par an. Quelquefois deux.
Qu'est-ce qu'on entend dans le casque là ?
Là, c'est un bruit qui mixe à la fois du métal, un bruit très métallique, et à la fois ça rappelle des sonorités orientales. C'est assez intriguant.
Parce que là, sur l'écran devant nous, il y a. On voit deux mains qui sont en train de jouer avec un œilleton.
Avec un Judas, ouais.
Un Judas.
Mais en fait, moi, c'était une autre que je regardais vidéo. Pour ça, c'était celle.
Ah, voilà.
Et en fait, c'était l'ouverture d'un. Comme un cadenas qu'on n'arrive pas à ouvrir. Et du coup, on se sent oppressé parce qu'on sent qu'il n'arrive pas à ouvrir la porte. C'était exactement ça.
Là, on vient d'arriver dans un immense hall. C'est quoi ? C'est avant d'entrer au spectacle, on attend ici ?
Ouais, on peut dire que c'est le foyer.
Le lieu de convivialité.
Très,
bah,
beau,
oui, très beau.
Très bel endroit.
Et ouais. Très haut.
Très haut, très haut de plafond. Je sais pas comment ça représente, mais il y a au moins 7 mètres, sous plafond, là, au minimum. Ouais.
Donc là, clou du spectacle, on va entrer dans la salle. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Ah voilà, ils ont ouvert la porte.
Donc on va pouvoir entrer aller voir cette très belle salle. Du théâtre de Maria.
Ah ouais, alors là, dès qu'on rentre, on voit tout de suite cette hauteur sous plafond, toujours là, très impressionnante.
Exactement, très belle salle. Relativement petite en capacité, parce qu'il y a 550 places, mais vous allez voir, très confortable.
550 places, mais rappelons qu'on est au milieu du désert quand même.
Absolument, absolument, absolument. Mais il y a une espèce de disproportion entre le nombre de places et la salle qui est magnifique.
Magnifique.
Voilà, on a beaucoup plus de place que dans un théâtre parisien.
Et un très grand plateau, hein. Ah oui, l'ouverture est très grande. Incroyable.
Ce qui est magnifique, qui était une idée évidemment de l'architecte qui a conçu cette salle, c'est comme vous voyez le fond est une grande surface vitrée qui donne directement sur le paysage. Voilà. Là, on ne s'en rend pas bien compte parce qu'il y a un reflet de la salle. Mais dans la journée, effectivement, où, quand c'est éclairé, on voit la montagne en fond de
qui
décor
nous entoure,
du théâtre.
D'accord, exactement. Donc comme une immense baie vitrée en face du gradin.
Exactement.
L'autre grand pan culturel de cette région, eh bien, ce sont les courses de chameaux. D'autant plus que l'année 2024 a été décrétée année du chameau, animal vital dans la vie locale et ce depuis des siècles, et se dispute ces jours-ci à Alula la deuxième édition de la Alula Camel Cup. Bonjour.
Bonjour.
Vous entendez parler français, je me permets de vous poser quelques questions. Vous étiez déjà venu à une course de chameau ?
Alors j'étais venu en 2020. Pour le même concept et c'était très sympa et puis j'ai décidé de revenir cette année.
Vous pouvez nous dire ce qu'on vient de voir? Donc en fait il y a des chameaux qui courent mais il n'y a pas de jockey sur leur dos.
Alors ceux qui ont des robots, c'est qui ont en fait des sponsors. Et ceux qui n'ont pas de robots, c'est juste pour la participation en fait.
D'accord.
Juste pour en fait booster le jeu et avoir plus de participants.
Et les voitures qu'on voit suivre les chameaux, elles sont là pour diriger à distance ou...
Exactement, diriger à distance. Aussi, s'il y a un incident, ils peuvent intervenir en même temps.
Et donc, en fait, le principe de ces courses, c'est vraiment de voir quel est le chameau qui va le plus vite et le récompenser à la fin. C'est le plus rapide qui gagne.
Exactement, c'est le jeu. Ils veulent savoir qui a le chameau le mieux formé, mieux prêt pour la course.
Merci beaucoup, on va suivre ça. Merci.
Merci.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, suite de notre découverte d'Alula, nous nous intéresserons aux recherches archéologiques.
Merci Marie, et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée par Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassier, Lise Ripoche et Emma Roubertier.